Je vous proposerai d'ouvrir notre Bible au début, Genèse, chapitre 1, verset 1, facile à trouver, ce sont les premières pages, hein. Les premières pages, les premiers textes. On va lire tranquillement ce beau texte. Tout le monde a trouvé. C'est bon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, et ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Cela fut ainsi et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant un fruit et ayant leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Et on va s'arrêter là. On verra la suite un petit peu plus tard, l'occasion de notre dimanche. Alors, le mot Genèse, vous le savez sans doute, veut dire le mot commencement. Alors, on n'a pas de difficulté à saisir le sens de ce texte ici, de ce que Dieu, dans sa parole, veut nous enseigner. Eh bien, il a fait les choses dans l'ordre, dans son livre. Le premier livre est le livre du commencement. Et Dieu commence donc à donner des réponses à pas mal de questions que nous pouvons nous poser. Ceux qui lisent l'hébreu ont remarqué que la première lettre de la Bible avait une forme de parenthèse. Une forme de parenthèse ouverte. Et ce qui fait que ce qu'il y avait avant le commencement, avait finalement, ne nous regardait sans doute pas beaucoup. Dieu nous donnait sa révélation à partir de ses premières paroles. Dieu créa les cieux et la terre, et ce qu'il y a avant reste caché. Alors vous avez remarqué, il s'agit d'une création en six jours. Ex nihilo, hein, le mot grec, latin pardon, qui signifie à partir de rien. Donc à partir de rien, par sa simple parole, ben on voit qu'il crée la lumière, il sépare les eaux, il crée la terre sèche avec les plantes, il crée les astres, les poissons, les oiseaux, tous les animaux terrestres. Il va créer aussi l'homme, c'est le texte juste qui suit. En six jours seulement, vous avez remarqué peut-être les mots qui revenaient souvent dans ce texte. On voit la parole d'autorité, hein, on voit Dieu dit, Dieu déclare et les choses sont faites ainsi. On voit que Dieu donne des noms aussi aux choses qu'il crée, hein, c'est assez remarquable. Souvent il procède à des séparations, hein. Il sépare les lumières des ténèbres, il sépare le jour et la nuit, il sépare l'eau de la partie sèche. Il insiste beaucoup également sur les semences, sur les espèces, selon les semences, selon les espèces. Il parle du temps également. Et régulièrement, on voit cette constatation que Dieu fait, tout est bon. Et vous avez pu remarquer également que dans ce texte, il donne des instructions aux choses qu'il a créées, aux poissons, aux oiseaux, aux animaux. Ils reçoivent des instructions. Alors, immédiatement, quand on lit ce texte, il nous vient bien sûr à l'esprit d'autres explications de l'origine du monde. Et celle que l'on connaît le plus, c'est celle que l'on apprend à l'école, bien sûr. Les scientifiques du XXe siècle ont établi deux modèles par rapport à l'origine du monde. Je parle d'origine, je ne parle pas de création, parce que c'est un mot qui est un petit peu incompatible avec la démarche scientifique. Alors comment ils procèdent, hein? Ils établissent des théories, les scientifiques, en fonction d'observations qu'ils font. En fonction de ces observations, on essaye de mettre en place des lois mathématiques, des lois qui permettent de faire cadrer et d'harmoniser toutes ces observations. Et à partir de là, on extrapole avec ces lois ce qui peut se passer avant ou ce qui peut se passer après, tant dans le passé que dans le futur. Et donc il y avait deux modèles. Au début du siècle, il y avait le modèle d'un univers qui était stationnaire. Les lois qu'ils avaient mises en évidence étaient telles que rien ne pouvait changer. L'univers était parfaitement stable. Et depuis, l'état est éternel. Et il n'y avait pas tellement possibilité d'imaginer un commencement. Les lois étaient comme ça. Et avec ces lois et ces modèles, il n'y avait pas de commencement, il n'y avait pas de fin. C'était stable. Et puis, en 1922, il y a un chamoine catholique du nom de Georges Lemaître qui a trouvé une autre théorie qui a été connue sous le nom de la théorie du Big Bang, quoique ce ne soit pas une théorie qui mette en œuvre une explosion, mais avec il a proposé une théorie qui au contraire montrait un univers qui était en expansion. Il partait de quelque chose qui était très dense, très très chaud, et qui allait s'éteindre en se refroidissant. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, il a pu mettre une date du début de l'univers avec ce modèle à partir d'équations mathématiques. Hein, la date de l'univers serait de 13,7 milliards d'années, plus ou moins 1%. J'ai lu ça. C'est vraiment très très précis. 13,7 milliards d'années. Alors, les théories sont faites sur des hypothèses, hein, et elles sont plus ou moins les hypothèses, parce qu'il y a des endroits où on n'est pas très sûr, alors on fait des hypothèses, ah, il doit y avoir telle matière, où on doit pouvoir découvrir telle chose. Et des fois, les découvertes et les observations qui suivent confirment les hypothèses du départ, et donc la théorie se trouve consolidée, ou d'autres fois, au contraire, les découvertes qui sont faites rendent la théorie fausse, et à ce moment-là, il faut chercher autre chose. En tout cas, à l'heure où on en est aujourd'hui, la grande majorité des gens qui se sont plongés là-dedans, c'est quelque chose de très très compliqué, qu'il est très difficile de comprendre, d'appréhender. La théorie dite du Big Bang est celle qui marcherait le mieux, faute d'une autre théorie qui puisse être plus satisfaisante. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais bon, globalement, c'est ce qui marche le mieux. Alors, ça c'est une explication de l'origine du monde. Du moins, il y en avait deux là, au 20e siècle, il y en a eu deux qui ont été un petit peu contradictoires l'une avec l'autre, mais qui ont coexisté. Et il y a également les sources à l'extérieur de la Bible, l'histoire des origines selon les autres civilisations. Et là, bon, il y en a une multitude de civilisations et une multitude d'histoires, mais quand même, on remarque que toutes reprennent plus ou moins, disons, les grands thèmes qu'on retrouve dans ce récit de la création, d'un chaos et d'une volonté à un moment donné de créer et la séparation des eaux. Enfin, il y a des thèmes qui reviennent de façon assez frappante entre toutes ces histoires. Alors, maintenant, que penser de ceci? Si on dit que la parole de Dieu est une parole révélée, voilà, déjà on commence à la lire et déjà on voit, oula, il y a des choses qui ne correspondent pas. Que faire, que penser? Si on regarde un petit peu dans le passé, on voit qu'on n'est pas plus éclairé. À un moment, on sait que les gens voyaient que la Terre était plate. Et puis, voilà, les choses tournaient autour de la Terre. C'était le modèle qu'on avait en tête de l'époque. Et puis ça a été un petit peu bouleversé. Quand on a commencé à observer les astres avec des lunettes, tout ça, on a dit non, ça ne va pas être comme ça que ça marche. Il a fallu trouver d'autres choses. En tout cas, aujourd'hui, la pression scientifique est très forte pour imposer ses points de vue. Hein. Georges Lemaître était un croyant, hein, et lorsqu'il a mis en évidence sa théorie, quand à l'époque on pensait ce qui prédominait c'était l'état stationnaire, un univers qui était éternel, qui n'avait pas de commencement, pas de fin, donc le pape Pie XII, il était tout content, il a dit « Ah, ça y est, voilà, on a la preuve que Dieu existe, il y a eu un commencement. » Et Georges Lemaître a fait savoir à Pie XII que non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il voyait les choses. Hein. La science, pour lui, n'a pas vocation de se mêler de ce qui concerne la religion et la philosophie, et inversement, ce sont deux domaines qui sont différents. Pour lui, la science se contente de proposer des scénarios réalistes permettant de décrire de façon cohérente l'ensemble des observations dont on dispose à un instant donné. À un instant donné, ce qu'on sait des observations, ce qu'on peut comprendre, on peut comprendre ça, mais c'est aujourd'hui, à cet instant donné. Et cela ce doit être, enfin, toujours être très prudent. C'est comme ça que le maître voyait les choses. Et il faisait une séparation et il n'y avait pas de problème quand ce qui concerne sa foi. Alors, ça c'était la façon de voir de monsieur Georges Lemaître. Que pensez-nous? Que pensez-vous? Moi, j'ai observé que plus les hommes sondent les choses immensément grandes et immensément petites, et quand les scientifiques nous montrent tout ça, ce qu'ils voient avec les lunettes, les astres, tout ça, on est toujours dans l'émerveillement. L'émerveillement de ces choses qui sont si grandes, si éloignées, ou des choses qui sont infiniment petites, et des toutes petites particules dont on nous parle, les toutes petites choses qu'on ne voit pas. Ça provoque à moi, tout au moins, un émerveillement. Mais moi, je suis doté de facultés, je peux observer également autour de moi ce qui se passe. Observer cette fameuse nature, observer la mer, observer le ciel, observer la terre, comment elle est faite, observer les animaux, les oiseaux, observer les poissons. Et c'est vrai que comment on pourrait penser que tout ceci est le fruit du hasard, est venu de façon soudaine, comme ça, de nulle part. Alors, que peut-on penser? Ben, voudrais vous rappeler que personne n'a le droit de nous prendre cette liberté que nous avons de penser, liberté d'observer, liberté de regarder autour de nous, de nous servir de ce que Dieu nous a donné pour réfléchir, ne pas laisser les autres réfléchir à notre place. Souvent, ce sont des discours qu'on peut entendre de gens qui ont des grosses têtes comme ça, qui disent laissez-nous réfléchir. Nous autres, on réfléchit, voilà comment les choses sont. On a réfléchi et on sait que c'est comme ça, et on sait que c'est comme ça. Et ne vous servez pas de votre tête. Non, ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable. En tout cas, les choses ne seront jamais simples parce que la parole de Dieu a une notion qu'elle voudrait nous apprendre. Et là, on le voit que c'est tout au début. La foi. La foi. Alors, on va lire Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. C'est un très beau passage. Hébreux chapitre 11, ces trois petits versets, je vous les lis, si vous n'avez pas le temps de les trouver, c'est pas grave. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, favorable de la part de Dieu qui a honoré la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au début, cette même auteur précise, le Fils est le reflet de la gloire, l'empreinte de la personne de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ces deux affirmations de l'Épître aux Hébreux sont faciles à accepter aujourd'hui. On sait que la matière est faite de rien du tout, qu'on est à 99,9% composé de vide, que ce sont des toutes petites particules qui tournent et que ce qu'on croit comme étant solide est fait de vide. Et donc, cette affirmation ici de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est facile à accepter aujourd'hui. Et même que la parole de Dieu Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante, on sait que les lois de l'univers sont d'une précision et d'une rigueur incroyable, on dirait astronomique. La précision des mécanismes célestes, des étoiles qui tournent, etc., des planètes, et tout ce qui est petit et tout ce qui est grand tourne aux petits oignons. Ça ne bouge, ça ne varie jamais. Donc, ces paroles de l'Épître aux Hébreux sont assez faciles à accepter aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand on n'avait que seul, donc ceux qui nous ont précédés devaient se dire, mais non, c'est pas possible. Et à l'inverse, quand on n'avait que le seul récit de la création de la Genèse, il n'y avait pas de problème. Les gens acceptaient sans doute ce texte comme il était, et ils y croyaient. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Il faut exercer notre foi, comme ils avaient sans doute besoin d'exercer la foi, eux aussi, dans des passages tels que cela. Mais on peut remarquer que ceux qui nous ont précédés, qui ne connaissaient que les textes de la création de Genèse pour expliquer l'origine du monde, n'ont pas cru en cette parole pour autant. C'est pas pour autant qu'ils ont pris au sérieux la parole de Dieu, tout ce qu'elle contenait. Certains ont pris attention à ce que disait Dieu dans sa parole, d'autres pas du tout. Et pourtant, ils pouvaient accepter très bien le récit de la création tel qu'il était fait. Donc, certainement Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Alors, je ne vous demanderai pas de croire ce matin que le monde a été fait en 6 jours. Je ne vous demanderai pas de croire non plus qu'il n'a pas été fait en 6 jours. Je vous laisserai votre liberté de vous faire votre propre opinion. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin pour nous. C'est de considérer autre chose. Je voudrais qu'on regarde ensemble la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine ? Semaine du lundi au samedi. Essayez de repasser un petit peu dans ma tête, dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez fait en une semaine de 6 jours ? Prenez le temps de réfléchir un petit peu. Lundi, voilà ce que j'ai fait. Puis le mardi, j'ai fait la même chose, peut-être. Bon, c'est exactement ça, j'ai passé mon temps au travail à refaire à peu près les mêmes choses que j'avais fait la veille. Un petit peu différent quand même. Je n'avais pas l'impression d'avoir travaillé pour rien. Regardez ce que vous pouvez faire en une journée, en 2 journées, en une semaine. Regardez cet espace d'attente d'une semaine. Et Dieu nous dit ce matin, regarde ce que tu fais dans une semaine. Regarde-moi ce que j'ai fait en une seule semaine. Regarde, compare, regarde ma grandeur. Regarde ma puissance. Regarde qui je suis. Je t'ai fait toi aussi. En une semaine. À la fin, vite fait. Hop, en passant. Ça y est, j'ai fait l'homme. On n'en a pas parlé. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris des plombes, mais ça a pris quand même une semaine. Ça a pris du temps. Dieu a quand même pas fait tout en même temps. Il a fait les choses les unes après les autres. C'est comme ça qu'il veut. Que les choses sont présentées. En tout cas, on a bien vu compter les jours. Et on peut faire ce contraste entre la semaine de Dieu et la semaine des hommes. Combien nous sommes petits, combien il est infiniment grand et puissant. Quelle puissance, quelle grandeur. Je vous propose de lire un dernier texte pour terminer. Avancez ou reculez dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, dans les études du mercredi, on a rabâché ensemble ces textes de l'Épître aux Éphésiens plusieurs fois. Alors, on va faire une révision. Je pense que ceux qui suivent les études du mercredi les connaissent par cœur maintenant. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 22. Jusqu'à la fin du chapitre, et c'est une prière de l'apôtre Paul, et il dit pourquoi il prie pour ses Éphésiens, et qu'est-ce que c'est qu'il prie pour ses frères d'Éphèse, et pour nous, si on étend ça à l'Église universelle. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un passage très riche. Ce matin, je voudrais juste qu'on regarde, qu'on relise. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Envers nous, l'infinie grandeur de la puissance. Et il prend comme exemple de sa puissance la façon dont il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ça défie toutes les lois du mot scientifique. Tout ce que Dieu avait posé comme loi, comme équation, ben là, Dieu est puissant. Il a ressuscité Jésus-Christ, il est maître, absolument Dieu, et maître un absolu de sa création. Et on peut voir dans la résurrection de Jésus-Christ un autre aspect de la puissance de Dieu, comme il l'a fait asseoir au-dessus de toute autorité, comme dit ce texte. Alors, sauf que là, ce qui est sympa dans ce texte-là par rapport à la puissance qu'on voit Dieu dans la création, c'est que là, il dit... Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Envers nous. Et donc, Dieu, sa puissance, elle est aussi là pour ses enfants. Si on veut rester concret, on a tous des difficultés peut-être, même maintenant, on a des difficultés dans notre vie. On a des choses qui sont difficiles. Et on peut avoir l'assurance que Dieu est puissant pour nous secourir. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est puissant aujourd'hui encore pour nous secourir, quelles que soient les équations que nos scientifiques ont pu mettre en place et découvrir. Je vous proposerai de rechanter ce chant, donc je lève les yeux vers les montagnes, psaume 121. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et après, Jean, je te laisserai terminer par la prière.
Thank you. Amen.